This December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set,
toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th.
Right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, aujourd'hui je suis en compagnie de l'homme qui ensoleille toutes les journées, Monsieur Papito.
Chris, t'en dis de la merde en si peu de temps. Attends qu'on soit réveillé un peu avant de dire n'importe quoi.
Comment ça va?
Correct. Ouais.
Puis la job?
Hey, tiens, comment je pourrais dire ça? J'suis en train d'écrire de quoi là-dessus, là? c'est pas négatif, là. C'est pas moi qui vis. Non, c'est pas vrai. Attends une minute. Mettre entre parenthèses un petit événement qui m'est arrivé. C'est jeudi. Mercredi ou jeudi, je m'en souviens pas. Il y a un employé que j'avais nommé Simpleur. Il est bizarre, là. Mais on était en train de décharger comme des caisses d'une palette sur le convoyeur. Il est arrivé, il a pété une coche, il a pesé ses pitons du klaxon, genre du chariot élévateur. Après ça, il a crié. Après ça, il est allé prendre un bâton d'une poubelle, puis il est tapé à terre, puis il a continué à gueuler comme un macaque. Fait que moi, n'ayant que très peu de patience...
Un nice guy.
Non, il est pas méchant, il est juste spécial. J'ai manqué de patience, fait que je suis allé le voir, puis j'y ai dit, gars, le grand, moi, demain, ça me dérange pas d'aller chercher une nouvelle job. Toi, il va peut-être falloir que tu trouves un chirurgien dentaire, par exemple.
Bon, Papy Joe fait des menaces.
Fait que c'est comme pas vraiment calmé, puis il est retourné dans son trou.
Fait que là,
moi, j'étais allé voir mon superviseur en lui disant la situation. Après, il m'a dit, va aviser son superviseur de la situation. Fait que j'étais allé l'aviser. Mais en fait, quand j'ai été chanceux, je l'ai croisé plutôt. Je l'ai averti, puis le lendemain matin, Simpleur, il était tranquille. Moi, je sais pas encore. Là, on est rendu mercredi, j'ai pas passé encore au bureau. Fait que je suis correct pour l'instant.
Oh là 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 là. Papy Joe.
Fait que c'est ça, je suis en train d'écrire. Il va avoir mes personnages parce que c'est mes sableurs préférés. Cassonade, Susson, Simpleur. Puis l'autre, ben, il s'appelle Kevin. Fait que je voyais pas pourquoi l'intérêt de le renommer. Là.
ça me fait rire.
Fait que c'est ça.
Bon. Fait que là, canalise ta colère et raconte-nous une belle histoire.
Alors, retour dans le temps. Alors, retour dans le temps. Car tout le monde le sait.
Tabarnak, ça va pas bien.
Je pense que j'ai mis une virgule de trop. Alors, retour dans le temps. Car tout le monde sait, c'était mieux avant. Nous allons parler des castrats. Ou comme les Italiens le disent, les castrati. Car les Italiens n'ont pas juste inventé le fascisme, mais aussi la conservation des jolies voix de jeunes garçons. Je crois qu'aujourd'hui, tout ça est illégal, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore des lois qui le permettent dans certaines régions de notre belle planète. Au Canada, il est illégal de castrer, stériliser un jeune enfant contre sa volonté. Ce qui soulève plusieurs questions qui n'est pas le sujet de notre épisode.
Je viens de catcher.
Et voilà! Monsieur savait pas c'était quoi un castrat.
J'ai juste pas allumé. Non, hein? J'ai déjà entendu parler de ça, finalement.
Et voilà! Tu sais, techniquement, c'est pas un crime, je suis d'accord pour les puristes qui ont dit « C'est pas un crime à l'époque, blablabla. » Mais on s'entend, ça reste sordide.
Ouais, puis ils étaient peut-être pas tous nécessairement d'accord non plus.
Ah oui, j'y reviens. Commençons par là où ça fait mal. La castration. Qu'est-ce que la castration? Ou plutôt, comment ils s'y prenaient à l'époque? Parce qu'aujourd'hui...
Je suis pas le seul qui a été berné.
Ah oui?
Ouais, c'est Netflix, je pensais que c'était un groupe de musique.
C'est un duo qu'on enlève.
C'est une sorte de groupe.
C'est ça, aujourd'hui, évidemment, quand on parle de castration, on parle surtout chez les animaux, puis on utilise, en fin de compte, des anesthésiants, des choses comme ça. L'opération elle-même est mal connue. Un traité des eunuques publié par Charles Assion en 1707 décrit plusieurs méthodes. Une castration vraie, ça veut dire plus de bourse, ou une section du cordon spermatique, qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui une vasectomie. L'enfant, généralement âgé de 6 à 8 ans, est le plus souvent endormi à l'aide d'un somnifère. On utilisait souvent de l'opium. Tu sais, bébé, on va lui faire un petit dodo, petite poffée d'opium.
Bye-bye!
Ce qui m'a fait penser à un livre d'un humoriste, Une pipée d'opium pour les enfants. Ça n'avait aucun rapport avec la castration. Puis aujourd'hui, Fred Dubé, ben, on n'entend plus vraiment parler parce qu'il s'est ramassé un petit peu dans les affaires hashtag MeToo. Fait que ça, c'est un autre sujet. Monsieur, il était ben engagé dans les trucs sociaux.
Mais pas juste ceux-là.
Non, il était fumé de l'opium pendant l'opération. Puis plongé dans un bain très chaud qui conduit les testicules à se flétrir puis à disparaître quand ils n'ont pas été coupés. Fait que, tu sais, bonne bouillotte. Tu trempes ta bouillotte, une poche de thé, c'est ça. En aucun cas, on ne procède à une ablation du pénis. C'est très important. Faut qu'il soit capable de faire pipi. Puis s'il n'y a pas de pénis, ben c'est pas un petit garçon. Aucun décès n'est signalé à la suite de l'opération, ce qui n'implique pas qu'il n'y en ait pas eu. Parce que, tu sais, je veux dire, les recensements de l'époque, l'entrée de données, tout ça, c'était pas vraiment clair. Mais laisse penser que le taux de décès restait dans les normes de l'époque. Il y avait aussi l'écrasement des testicules. Je précise que c'était un genre de clip qui coupait la circulation du sang vers la circulation du sang vers les parties indésirables. Fait que c'est comme ils font ça des fois pour les chiens. Là, tu mets un élastique alentour de la queue. Quand je dis la queue, c'est la queue en arrière. Puis là, t'attends, ça sèche parce qu'il n'y a plus de sang. Puis là, à un moment donné, ça tombe. Mm-hmm. C'est la même technique, mais pour des testicules d'enfants. J'aime préciser que c'est ça. Dans l'ensemble...
J'aime préciser que... Semi-assumé
parce que... Oh my God! Dans l'ensemble, l'opération semble relativement bénigne. À la fin du 17e siècle, un chirurgien spécialisé estime à 13 jours le temps nécessaire à l'opération et à la convalescence. On a connaissance d'opérations ratées. Un jeune chanteur soprano de Saint-Jean-de-Latran n'est castré que d'un côté et sa voix mue quand il atteint 13 ans.
Zut dommage! De
sa carrière est scrap à cause d'une couille.
Tabarnak!
C'est dans quelle époque qu'on vit. J'imagine juste ses parents vraiment déçus, tu sais. Je crois, ben là, ta voix le muet, comment ça? Oh, il me reste une testicule. Dégueulasse, sors de la maison. Va travailler dans les champs, va nu-pied. Zestri italien.
Tabarnak, mon gars. Je vais-tu survivre à cet épisode-là, oui?
Je sais pas, est-ce que t'as mal dans le bas-ventre un peu ou ça va?
Non, ça va, mais je ris pas mal.
OK, c'est bon. La castration ne fait pas l'objet d'un... Ouh, ça, c'est important. La castration ne fait pas l'objet d'une pudibonderie. Et Alex, tu te demandes, qu'est-ce qu'une pudibonderie?
Oui.
Réserve excessive est généralement déplacée, notamment en ce qui concerne les choses relatives à certaines parties du corps et au sexe. Oh, je pense qu'aujourd'hui, on appelle ça un tabou, là, mais c'était cool de dire pudibonderie. Tout ça est particulièrement au 17e siècle et au début du 18e siècle. Elle est évoquée sans détour par les familles qui sollicitent une aide financière pour la payer ou qui contractent avec un professeur de chant qui prendra la charge de leur fils. Les lettres sont parfois rédigées au nom de l'enfant qui demande à être castré pour éviter que sa voix ne mue. C'est seulement par la suite que la castration est présentée comme la conséquence médicale d'une maladie ou d'un accident. Un accident. Comme une chute de cheval, dans le cas du castrat de Firenelli, ou, plus curieusement, une morsure de cygne ou de sanglier.
Oups!
Au milieu du 19e siècle, ces derniers sont présentés comme les responsables du sort de toutes les castrats de la chapelle Sixtine. Ces méchants sangliers, une chance qu'Astérix et Obélix les mangeaient, parce qu'imagine, tous les petits garçons auraient plus de testicules.
Une crise de chance.
Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que... Il y avait plein de castrats à la chapelle Sixtine qui se trouve au Vatican. Je dis ça de même. On va y revenir, justement.
T'es allé, là, oui.
Ah oui?
Ouais.
T'es revenu avec tes testicules?
Yeah, mon gars.
Ouais, t'es peut-être trop vieux aussi pour te faire violer par un prêtre. OK, je continue. On peut constater que ce n'était pas tout à fait socialement accepté de castrer son enfant, en général, à toute époque de notre civilisation. C'est comme, hey, mon enfant, il chante bien, puis j'aimerais ça qu'il continue à bien chanter. « Mais papa, je veux jouer au baseball. »« M'en caler, je vais te couper les gosses. Tu vas aller me rapporter de l'argent.
» C'est assez radical, pareil. Ouais.
Okay. La castration provoquait l'absence de sécrétion de testostérone, empêchant la mue vocale. Le larynx ne descendant pas et reste ainsi proche des cavités de résonance, contrairement à l'homme mature. Quand j'utilise « homme mature », je parle qu'il a eu sa puberté. Parce que j'ai 40 ans et je me considère pas mature. Cette position ainsi que l'absence de la pomme d'Adam donne à la voix davantage de clarté et joue sur la brillance des harmonies vocaux. L'entraînement permettait au castrat de développer la musculature des cordes vocaux, dont d'avoir une voix plus puissante.
Excusez. T'as l'air que ça t'arrive pas souvent, ça?
Non, évidemment, par manque de testostérone, la croissance du sujet était altérée. Ouais, parce qu'il donnait pas genre comme des hormones. L'opération entraînait des mutations morphologiques telles que l'absence de pomme d'Adam ou de pilosité, encore que les sécrétions restent des glandes surrénales permises de conserver une pilosité pubienne. Les castrats pouvaient avoir des relations sexuelles à l'exception de la reproduction de spermatozoïdes. La suractivation des hormones féminines pouvait donner des caractères plus féminins aux castrats, notamment une tendance à l'obésité par des dépôts graisseux sur les cuisses et les hanches ou un développement des seins. J'ai regardé certaines photos de castrats, puis ils ont comme des grands bras, des grandes jambes, un gros cul puis un petit torse.
OK.
C'est comme si toutes les extrémités grandissaient sauf le torse. C'était bizarre. La taille parfois plus élevée que la moyenne était due à une suractivation de l'hormone de croissance. Activité de l'hypophysaire, non compensée par la testostérone. L'ossification des cartilages était également retardée par l'absence de mue, permettant un allongement relatif des os. Fait que c'est ça, tes bras, ils grandissent, mais pas le restant. Fait que t'as l'air d'un beau macaque.
C'est oui, le pari.
Ben, je veux dire, c'est...
Non, je comprends, ça, c'est sûr que ça doit être weird comme humain.
Dès le départ, c'est weird.
oui, je le sais, mais... Tu sais, le qu'est-ce que ça fait sur le corps, là, quand même.
Ouais, c'est ça. On est une machine, puis si tu coupes un petit fil, ça va pas super bien après. Enfin... La neurasthésie, qu'est-ce que la neurasthésie? État durable d'abattement accompagné de tristesse. Encore un mot qu'on peut dire genre la dépression aujourd'hui. Était fréquente chez les castrats, marquée par le traumatisme de leur mutilation, mais aussi dû au manque de testostérone provoquant une fatigue hormonale, parfois accompagnée d'un état dépressif ou d'irritabilité. Il s'agit aussi d'effets liés à leur position sociale. Couverts de gloire et adulés, ils n'en souffraient pas moins d'une certaine solitude. Fait que, même, c'est ça qui me surprend, même à travers le temps, La gloire te permet pas d'avoir plein d'amis. Tu peux te sentir seul quand même. Pensez-y avant de vous faire castrer.
Important. Très important.
Fait que après tout ce plaisir, qu'est-ce que ça rapporte et pourquoi? Hein? D'après toi, on va faire un peu d'histoire encore, parce que de toute façon, ça se passe dans le temps. Les premiers chanteurs castrés apparaissent dans l'Empire byzantin, en Occident. Les premiers castrats connus chantent dans la chapelle du duc de Ferrare à la fin des années 1550. Le duc évoque le recours aux castrats comme s'agissant d'un phénomène classique. C'est classique. Yo, check, je suis bourgeois. Check mon castrat dans le fond de la cour.
Yeah!
Yeah! Ah, j'ai perdu le bout de ce que je fais. OK. Le premier castrat d'origine espagnole entre dès 1582 dans les effectifs du chœur de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire la chapelle privée du pape, qui avait déjà recruté des falsettis ou faussets espagnols. Ça, en fin de compte, des falsettis ou faussets, là, j'ai pas trouvé c'est lequel qui voulait dire quoi. Là. C'est comme, tu sais, t'as des altos, t'as des aigus, tu sais, mm-hmm. Ça serait comme une part de voix dans ces affaires-là. Puis encore une fois, c'est le pape aimait ça des petits garçons de castrés.
C'est-tu étonnant? C'est-tu étonnant?
Il aimait ça les cordes vocales élevées. Surtout, c'était sûrement des fils d'esclaves.
Gang reflex plus rapide.
Ouais, c'est ça. OK. Cette importance des Espagnols parmi les premiers castrats a de quoi surprendre, car l'Espagne n'est pas un centre connu de production de castrats. Non, car c'est plus l'Italie en général. En 1589, le pape Sixquint autorise formellement l'emploi de castrats dans le chœur de la chapelle Giulia de la Basilique.
La chapelle quoi?
Giulia de la Basilique Saint-Pierre. La chapelle Giulia de la Basilique Saint-Pierre. Fuck les Italiens. Et en 1599, on trouve officiellement deux chanteurs prêtres oratoriens qualifiés de eunuchi.
Eunuchi. Informe-nous. Informe-nous,
papy. En fin de compte, tu sais, castra, eunuque, même combat. Fait que c'est un eunuchi.
Netflix, il dit qu'il est italien.
Fasciste. OK! Au début du 7e siècle, on retrouve des castrats au service de tous les princes dirigeants italiens, que ce soit pour la musique sacrée ou profane. Le phénomène se développe également dans les cours allemandes. Tous ces chanteurs sont italiens ou du moins ont été castrés et formés en Italie. À quelques exceptions près, ce principe restera vrai tout au long de l'histoire des castrats. Leur développement ne s'explique pas par l'essor de l'opéra. Le recours au castrat devient courant d'abord dans les chapelles et inversement, il faut attendre au moins le milieu du 17e siècle pour que l'habitude se prenne d'attribuer à un castrat le rôle-titre d'un opéra. Ouais, je trouve ça bizarre. L'interdiction à Rome pour les femmes de chanter sur scène n'est pas non plus une explication suffisante. D'abord, elle n'est pas réellement respectée avant la fin des années 1670. Ensuite, elle aurait pu conduire à préférer les jeunes garçons ou les falsettistes pour chanter dans les registres aigus. Cependant, les garçons présentant le défaut de muer peu de temps après la fin de leur formation, alors que le timbre des falsettistes est considéré comme frêle et peu satisfaisant par rapport à celui des castrats. Quand on en trouve dans une partie soprano, cela semble s'expliquer par la difficulté de trouver un castrat ou par le coût trop élevé de ce dernier. On trouve cependant des falsettistes au pupitre alto. Curieusement, plusieurs papes interdisent à des castrats de tenir cette partie alors qu'ils les acceptent comme soprano. J'ai pas tout compris qu'est-ce que j'ai lu, mais je sais juste que genre, ah ouais, on a ça qui pourrait faire. Non, mais un castrat. Ah, on pourrait prendre ça pour faire. Non. Un castrat. Une femme? Non. Arc, un vagin. Pas moi, un pénis, pas de gosse. C'est aussi simple que ça.
Sacrement.
C'est ça. Le phénomène des castrats s'explique peut-être par la prééminence accordée aux voix les plus aiguës. Quand l'opéra prend son essor dans le deuxième quart du 17e siècle, les sopranos castrats ou femmes sont mieux payés que les ténors et les basses. Dans les chœurs religieux également, et sous réserve de l'ancienneté, les castrats et les ténors obtiennent de meilleurs émoluments. Émoluments, ça veut dire plus de cash. Que les basses.
Tching, tching!
Donne-moi ton émolument, bébé! Puis il part un
billon.
Yo, c'est ça. Check le char que je me suis payé avec mon émolument.
Chris va faire un rap.
Un rap avec des vieux mots français, genre, que personne n'utilise. Ah, oh, je suis rendu où, là? Oh, là.
C'est Netflix, il nous dit de plus jamais faire ça.
T'es pas mon père, tu me diras pas quoi faire. Parce que même mon père a pas réussi. Parmi les castrats eux-mêmes, ceux qui chantent des rôles d'alto de temps à autre semblent être moins estimés que ceux qui se cantonnent aux rôles soprano. Parallèlement, le développement de la voix solo exige des interprètes plus professionnels, ayant reçu une formation plus poussée. Or, les filles ne peuvent pas être entraînées avant que leur voix ne mue ou juste qu'ils se calissent des filles, car ça vaut rien à l'époque. Un vagin, alors que des garçons castrés peuvent débuter jeunes la formation, à un âge où ils sont plus malléables et peuvent commencer à travailler plus tôt. C'est... le sexisme.
Bingo.
Bingo aussi.
Drette dedans.
Drette dedans. Même quand il s'agit de garçons castrés, on les préfère. C'est une fille. Calice. On va tomber dans des noms populaires de l'époque. T'sais, les pop stars de l'époque. On va commencer avec Farinelli, de 1705 à 1782. L'un des plus célèbres castrats. Rien de très croustillant à dire, sauf deux choses. Le jeune Farinelli est issu d'une famille de la noblesse de robe locale. Son père, Salvatore, détient des charges administratives féodales. C'est un passionné de musique qui décide de faire de ses deux fils des artistes. L'aîné, Riccardo, comme compositeur, et le cadet, Carlo, a.k.a. Farinelli, comme chanteur.
Chanteur spécial.
Il est un peu spécial. Il a fait comme... toi, c'est correct. Toi, on coupe.
Progéniture. Money.
Tu paieras pour la progéniture de l'autre. Il s'éteignit le 16 septembre 1782, selon son vœu. Il fut enterré au cimetière de la Chartreuse de Bologne, hors des murs de la ville, au pied de la colline della Guardia. Fait que, moi, premièrement, j'aime la Chartreuse. Deuxièmement, il n'y a rien de mieux qu'une sandwich à ballonner. Fait que, deux mots qui me rendent heureux. Alors ça, on passe à Giovanni Francesco Grossi, dit Sifas, né à Chiesa Uzanes le 12 février 1653 et mort le 29 mai 1697 à Malalbergo. Malalbergo, ouais. Sifas, désolé.
Voyons les rats à soi.
Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Sifas voit sa réputation vite grandir en... 1686.
La digestion est difficile à 40 ans.
Ouais.
Je pense que tu ne reviens pas de la boxe.
Non. Sylvas voit sa réputation vite grandir. En 1687, il passe 6 mois à Londres où Henri Purcell compose en son honneur une pièce de clavecin, Stefanci Farewell. Il semble qu'il ne chante que dans un cadre privé et qu'il ne se produit pas à l'opéra. Le succès monte à la tête du chanteur qui multiplie les insolences et les caprices, comme le chantage à la hausse du cachet. Fait que, tu sais, il demandait son cash, lui, il savait comment négocier. À l'apogée de sa tête enflée, une liaison avec une veuve, la comtesse Elena Forni, dont il se vantait, lui sera fatale. Il est assassiné sur une route non loin de Ferrare, sur l'ordre des frères de la veuve. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien.
C'est quoi cette face-là?
Rien, bon, je vais juste rire à quelque chose dans le chat, c'est tout.
OK.
Je demandais si on voulait un peu plus de Papy Joe après l'histoire, puis on m'a dit « Penses-tu vraiment qu'on va dire non? » Ça m'a fait rire.
OK, c'est bon. Fait que c'est ça, il s'est fait tuer par les frères de la veuve parce que c'est ça qui me fait rire. J'ai... Moi, on m'a toujours dit si on coupait le paquet, c'était pas capable de lever, mais ça a l'air que non. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des affaires que je comprenais pas.
Peut-être.
Il y en a plusieurs d'autres noms, mais je m'en calisse, fait que on va passer à l'autre. Je termine avec Alessandro Moreschi, né le 11 novembre 1858 à Monte Compatri, est mort le 21 avril 1922 à Rome. C'est l'un des castrats les plus célèbres de la fin du 19e siècle. Ce fut le seul castrat ayant réalisé des enregistrements sonores. Je vous laisse avec une de ses interprétations de Ave Maria et si une voix vaut la coupure de ses testicules.
J'étais censé avoir une chanson pour ça?
Ben oui, je te l'ai envoyé.
Moi, j'ai juste eu une chanson. Ouais, t'as une minute, là. Je vais aller chercher ça.
Ben, en attendant, je vais continuer à parler. J'essaie d'avoir l'air professionnel, mais hein, le technicien...
Ben, il... gars, il y en a beaucoup à passer, le gars, en arrière de la caméra.
OK, d'accord.
T'as une minute, là. Je vais chercher ça. Ça sera pas long, vas-y. J'ose.
Ben ouais, j'ose. Entre parenthèses, j'ai... là, une certaine époque, quand j'étais plus jeune, j'avais tombé sur ça, sur des dossiers de castrat, puis j'avais eu j'avais vu un article sur un castrat russe. J'ai jamais réussi à trouver le nom de ce castrat-là, parce que je ne l'ai pas rajouté, mais là, on me donne la chance de peut-être en parler. Ce castrat-là, la seule affaire qui m'avait comme marqué, c'était oui, il y a eu beaucoup de gloire, il s'est promené, tout ça, mais comme il ne pouvait pas avoir d'enfant... il regardait son frère en train de forniquer avec sa femme. C'est un peu choquant, je trouve.
Ça, ça tentait pas de nous en parler durant l'épisode?
Ben, j'ai pas trouvé le nom du gars. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand j'ai pas de source, des fois, j'ai comme un peu plus de la misère à y aller. Fait que j'essaie d'avoir, mais... Tu sais, fait que ça revient toujours à... Ah oh, ouais, mais... Tu sais, dans le temps, les gens savaient vivre, il y avait une moralité... Fuck off. C'est juste que le monde se faisait pas pogner. C'est tout, esti. C'est juste la différence. Aujourd'hui, tout le monde, si on se filme pas, ça n'a pas eu lieu. La preuve, esti. Je suis filmé en ce moment en train de parler d'enfants qui ont été castrés pour leur voix, Chris. Qui l'eût cru un jour que je ferais ça?
Nous, ça a de l'air.
Même toi, tu t'y attendais pas.
Non, effectivement, c'est pas la chose que je m'attendais le plus.
Fait que tu l'as-tu trouvé?
Ouais, je l'ai juste pas enregistré à la place que je pensais. Fait que je m'en vais le chercher. Puis on va aller écouter ça.
Fait que à vous de juger si ça valait la peine de se couper les testicules pour une voix comme ça.
Hey, avant.
Ah oui? Quoi?
Où est-ce qu'on peut nous écouter, Papy Joe?
Dubruitamesoreilles.com et dubruitamesoreilles.ca. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent, parce que je sais pas combien qu'on est rendu avec ça, là, de plateformes de réseaux sociaux.
Ben, Instagram, Facebook, TikTok, pas mal ce qu'on a.
OK, ben, c'est trois, là.
Discord, Twitch, oui, Patreon. Discord. Twitch, Patreon.
Oui, Patreon.
Ouais.
Très important, Patreon. Je dis ça de même.
Yes, yes, puis il y a Snipeflex qui pose une question quand même avant qu'on aille.
Ah, ben oui, oui, je
suis. Il voulait savoir peut-être si tu sais à quel moment que c'est devenu illégal, la castration.
Ben, comme je dis. Ben, c'est ça, ta minute. Pour faire attention. Parce que c'est un sujet un peu épineux ces temps-ci. Encore une fois, comme je répète, c'est contre la volonté de l'enfant. Et à cette époque-là. T'sais, l'enfant était peut-être influencé à ça sans connaître les conséquences d'eux.
Mm-hmm.
Fait que c'est un sujet épineux.
Puis à quel âge qu'on peut juger qu'il y a une volonté claire?
Hey! Moi!
Moi, j'amène juste des infos, là!
Techniquement, il faudrait parler à un psy là-dessus parce que, t'sais, c'est toujours à... Tu sais, un enfant n'a pas le droit de se faire tatouer avant 18 ans parce que ça a l'air qu'il n'y a pas le jugement pour. Fait qu'à vous de juger pour le reste. Je vais pas faire des grosses allégations. Parce que chaque cas est particulier. Fait que c'est ça.
All right. Fait qu'on se laisse sur quelle chanson t'as dit?
Ave Maria.
All right. Bonne écoute.
Thank you.